Actes des Apôtres, chapitre 18, arrivée de Paul à Corinthe, versets 1 à 4.
Lecture de la parole. Après cela, étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe, et ayant trouvé un juif nommé Aquila, originaire du Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortissent de Rome, il alla à eux, et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes. Et chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait juifs et grecs.
Lecture de l'étude. Paul quitta Athènes pour se rendre à Corinthe, capitale de l'Achaïe, ville renommée pour ses richesses, son développement scientifique, mais aussi pour son immoralité. Si l'apôtre dit, dans sa première épître adressée à l'assemblée de cette ville, qu'il n'y a pas beaucoup de nobles ni de riches parmi eux, chapitre 1, verset 26, on voit qu'il doit les mettre en garde contre la sagesse humaine qu'ils introduisaient dans les choses de Dieu, et les reprendre quant à l'immoralité à laquelle, sortis d'un tel milieu, ils étaient exposés.
1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 « Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. »
Paul arrive humblement. Sa grandeur résidait dans le service qu'il accomplissait, car il était un des hommes les plus honorés du Seigneur par les révélations qu'il avait reçues concernant l'assemblée, pour annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Éphésiens 3, versets 8 à 9.
À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses.
Mais ce qui est grand selon Dieu dans ce monde n'a pas d'apparence, et les hommes ne l'estiment pas. Aussi, nous le voyons arriver dans cette ville luxueuse comme un simple ouvrier. Il se rend chez Aquilas et Priscilla, un couple juif, fabricant de tentes comme lui. Quelle que fussent l'instruction et la position d'un jeune juif, il apprenait toujours un métier manuel. Aquila et Priscilla venaient d'arriver de Rome, d'où on les avait expulsés, comme tous les Juifs, par ordre de l'empereur Claude. Paul travaillait de ses mains pour suffire à ses besoins, non seulement à Corinthe, mais aussi ailleurs. Il dit aux anciens d'Éphèse, lorsqu'il leur fit ses adieux, « Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. » Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir » chapitre 20, versets 34 et 35. Dans les lieux où il arrivait pour la première fois, il n'y avait pas de chrétiens, pas d'assemblée pour lui venir en aide. Même à Corinthe, lorsque l'assemblée fut formée, il ne voulut rien recevoir des frères, estimant prudent de demeurer indépendant, afin de leur être plus utile selon le Seigneur. Modèle de chrétien et de serviteur de Dieu en toutes choses, l'apôtre cherchait toujours les intérêts d'autrui en s'oubliant lui-même. Il suivait de près son divin maître. Il travaillait de ses mains et, chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait juifs et grecs, les juifs en leur prouvant que Jésus était le Christ annoncé dans les Écritures, les grecs en leur montrant que le vrai Dieu, en contraste avec leurs idoles, avait donné son Fils mort sur la croix pour les sauver. Travail de Paul à Corinthe, versets 5 à 22.
Lecture de la parole. Et quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul était étreint par la parole, rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ, et comme il s'opposait et blasphémait, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête, moi je suis net, désormais je m'en irai vers les nations. » Et étant parti de là, il entra dans la maison d'un nommé Juste qui servait Dieu et dont la maison tenait à la synagogue. Mais Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs des Corinthiens l'ayant ouï, crurent et furent baptisés. Or le Seigneur dit de nuit, dans une vision, à Paul, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Et il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Mais pendant que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs, d'un commun accord, s'élevèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, disant « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu, contrairement à la loi. » Et comme Paul allait ouvrir la bouche, Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice, ou de quelque méchante fourberie, ô Juifs, je vous supporterais à bon droit. Mais si ce sont des questions de parole et de nom et de votre loi, vous y mettrez ordre vous-même, car moi je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les chassa de devant le tribunal. Et ayant tous saisi Sosthène, le chef de synagogue, il le battait devant le tribunal. Et Gallion ne se mettait pas en peine de tout cela. Et Paul, ayant demeuré là encore assez longtemps, prit congé des frères et mit à la voile pour la Syrie, et avec lui Priscilla et Aquila, après qu'il se fut fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu, et il arriva à Éphèse et les y laissa. Mais étant entré lui-même dans la synagogue, il discourut avec les Juifs. Mais lorsqu'ils le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas, mais il prit congé d'eux disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse par mer. Et ayant abordé à Césarée, il monta et salua l'assemblée et descendit à Antioche.
Lecture de l'étude. Pendant son séjour à Athènes, Paul avait envoyé Silas et Timothée à Thessalonique pour encourager et fortifier les croyants de cette ville, toujours exposés à la persécution depuis qu'ils les avaient quittés. Voir 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5.
C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu, dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager touchant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons dit d'avance que nous aurions à subir des tribulations, comme cela est aussi arrivé, et comme vous le savez. C'est pourquoi moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé, afin de connaître ce qui en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût rendu vain.
À leur retour, ils trouvèrent Paul à Corinthe, étreint par la parole rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ, verset 5. La parole de Dieu exerçait sur Paul son autorité divine. Il en était pénétré comme seul moyen par lequel il pouvait persuader les Juifs de la vérité qu'il repoussait. En elle réside la puissance par laquelle Dieu accomplit son œuvre dans les cœurs. C'est pourquoi Paul écrivait à Timothée « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine » de Timothée 4, versets 2 à 4. De beaux discours religieux, attrayants, impressionnants, peuvent émouvoir les sens, mais n'agissent pas sur la conscience. Ils chatouillent les oreilles, dit l'apôtre, et demeurent sans effet. tandis qu'une parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit travaille la conscience, amène devant Dieu et produit le besoin du Sauveur qu'elle présente. Les Juifs s'opposaient et blasphémaient, verset 6. Alors Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je suis net. Désormais, je m'en irai vers les nations. » Il agissait selon la parole de l'Éternel à Ézéchiel, chapitre 3, verset 19. « Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa méchante voix, il mourra, lui, dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. » Maintenant que, après ces avertissements, ils refusaient positivement d'écouter, Paul les laissait pour annoncer Jésus aux nations, d'après un passage d'Ésaïe 49, verset 6, qu'il a déjà cité aux Juifs à Antioche de Pisidie, chapitre 13, verset 47, s'appropriant ce qui est dit du Seigneur dans ce prophète. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » C'est ce que dit l'Éternel en réponse à la plainte qu'Israël n'a rien voulu du ministère du Seigneur. Ces Juifs portaient une double responsabilité. Après avoir rejeté leur Messie en disant « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants », ils rejetaient le salut offert en son nom. Leur sang reposait sur leur tête. S'ils étaient perdus, ils y allaient de leur propre faute, comme pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus comme leur Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés, ainsi que Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem, chapitre 4, verset 12. Paul entra dans la maison d'un nommé Juste qui servait Dieu et dont la maison tenait à la synagogue. Il semble qu'il avait quitté la demeure d'Aquila et de Priscilla. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs des Corinthiens l'ayant oui, crurent et furent baptisés. Au cœur de cette grande ville et devant l'opposition des Juifs, Paul pouvait estimer inutile de rester plus longtemps, car, dans ce milieu d'érudits, les hommes n'étaient guère accessibles à l'Évangile. Aussi se sentait-il parmi eux, dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement, en Corinthiens 2, verset 3. C'est pourquoi le Seigneur lui dit dans un songe, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Versets 9 et 10. Le Seigneur voyait là tous ceux qui devaient être sauvés, et il encourage son serviteur à parler, malgré l'animosité des amateurs de la sagesse humaine, si opposés à la foi. Aussi demeura-t-il à Corinthe un an et demi, enseignant la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous voyons comment il prêchait la parole. Homme instruit, il aurait pu présenter la vérité avec la sagesse humaine. Mais, comme nous l'avons déjà vu, c'est la parole de Dieu qui seule opère dans un cœur pour l'amener à Dieu. Il aurait pu parler de Jésus comme d'un homme puissant, bon pour son prochain, victime de la haine de ses compatriotes, qui repoussait sa doctrine, le fondateur de cette religion chrétienne qui enseigne à aimer tous les hommes, à être bons envers tous, et ainsi de suite. C'est ainsi que beaucoup prêchent Christ aujourd'hui, mais ce n'est pas ainsi que Paul le présentait. Il dit « Je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu. » Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2. Cela ne veut pas dire, comme on allègue souvent pour excuser son ignorance des vérités de la parole, que l'on n'a pas besoin de savoir autre chose que ce qui concerne la mort du Seigneur. Les deux épîtres aux Corinthiens montrent que l'apôtre enseigna beaucoup d'autres vérités aux croyants. Mais s'il s'agit de présenter Christ à des inconvertis, et surtout à des gens confiants dans leur sagesse philosophique ou dans leur propre justice, il faut leur présenter la croix de Christ, où l'homme en Adam a pris fin, avec toute sa sagesse humaine, ses prétentions, sa propre justice et ses péchés. Le pécheur est un condamné à mort depuis l'entrée du péché dans le monde. Après la mort vient le jugement. Ne faut-il donc pas commencer par lui parler de Jésus, venu dans ce monde pour subir, sur la croix, à la place du coupable, le jugement qu'il avait mérité? À quoi sert de présenter toutes les vertus et les qualités du Seigneur lorsqu'il était sur la terre, si l'on ne croit pas qu'il a dû mourir pour sauver le pécheur? Car si le Seigneur était monté au ciel sans mourir, toute sa marche parfaite et admirable n'aurait pas expié un seul péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Lorsque les Corinthiens eurent accepté Jésus comme leur sauveur, Paul leur révéla d'autres vérités, les richesses insondables du Christ. Il leur dit entre autres, « Vous êtes de lui, de Dieu, dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. Et non plus dans un homme, si sage soit-il selon la chair, puisqu'il a pris fin à la croix dans la mort de Christ. L'assemblée de Corinthe devait être fort nombreuse, mais elle donna beaucoup de soucis à l'apôtre. Il eut à lutter contre les tendances naturelles qui portaient les frères à agir en hommes charnels à tous égards. Voir les premiers versets de 1 Corinthiens 3.
« Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas à la manière des hommes ? »
Comme partout, l'ennemi, voyant le travail de Dieu s'opérer dans son domaine ténébreux, se servit de nouveau des Juifs pour s'élever contre Paul, mais en vain, car il était sous la protection du Seigneur qui lui avait dit, « Parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi. » Il l'accuse devant le tribunal en ces termes. « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu, contrairement à la loi. » Verset 12-13. Galion, proconsul d'Achaïe, magistrat très en faveur à la cour de Rome, auquel on rend le témoignage d'un esprit doux et pacifique, vit qu'il ne s'agissait pas d'actes délictueux, mais de questions touchant la loi des Juifs. Il leur enjoignit donc de régler eux-mêmes les griefs dont ils accusaient Paul et refusa d'intervenir, puis il les expulsa du tribunal. Là-dessus, les Juifs, furieux d'être déboutés, saisirent Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent sans que Galion s'en mît en peine. On peut espérer que Sosthène se convertit. Peut-être est-ce lui que Paul s'adjoignit pour écrire sa première épître aux Corinthiens. Après avoir pris congé des frères, Paul partit pour la Syrie en passant par Chancrée, port de Corinthe, où se trouvait une assemblée dont une sœur, nommée Phoebé, était servante. Romains 16, verset 1.
Or je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Chancrée.
Il se fit raser la tête parce qu'il avait fait un vœu pour se conformer à une coutume juive, mais nous n'en savons rien de plus. Puis il partit par mer, accompagné de Priscilla et d'Aquila, qu'il laissa à Éphèse, où il discourut avec les Juifs dans la synagogue, versets 18 et 19. Il y eut des conversions, car les frères le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux, mais il n'y consentit pas, disant, Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Versets 20 et 21. C'est en effet ce que Dieu permit, comme nous le verrons au chapitre suivant. Il partit d'Éphèse par mer, aborda à Césarée où il salua l'assemblée, puis se rendit à Jérusalem où il désirait tant aller. Mais la parole reste muette sur ce séjour. Ensuite, il continua son voyage sur Antioche. La visite à Jérusalem n'entrait pas dans l'itinéraire que l'Esprit de Dieu traçait à Paul. Il avait sans doute de bonnes raisons pour s'y rendre. Nous savons combien il était attaché à son peuple selon la chair, mais ce qu'il faisait là restait en dehors de son service auprès des nations. Troisième voyage de Paul, versets 22 à 28. Troisième voyage de Paul, versets 23 à 28. Lecture de la parole. Et ayant séjourné là quelque temps, il s'en alla et traversa successivement le pays de Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et il vint à Éphèse un juif, nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquila et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme il se proposait de passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent à le recevoir. Et quand il y fut arrivé, il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Lecture de l'étude. Après un séjour à Antioche, Paul se remit en route, traversa la Galatie et la Phrygie où les assemblées avaient été formées lors de ses précédents voyages, et il fortifia tous les disciples, verset 23. Pendant ce temps, il vint à Éphèse un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie en Égypte, où se trouvaient beaucoup de Juifs. Homme éloquent et puissant dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, Apollos, chose étrange, ne connaissait que le baptême de Jean. Il parlait de ce qui concernait le Seigneur dans les Écritures de l'Ancien Testament. Il enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus. Le Seigneur étant l'aliment du nouvel homme, par lequel la vie divine peut se développer, il édifiait les croyants et parlait hardiment aux Juifs, comme il le faisait à Éphèse. Parmi ses auditeurs se trouvaient Aquilas et Priscilla. Ils comprirent bien vite ce qui manquait à Apollos, et ils le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Il manquait à ce serviteur la connaissance de Christ ressuscité et glorifié, et des résultats de sa mort, tel que Paul en avait reçu la merveilleuse révélation en rapport avec l'Église. Ayant profité de ses enseignements, il se proposa d'aller en Achaïe. Les frères d'Éphèse écrivirent aux disciples de cette contrée pour les exhorter à le recevoir. Lorsqu'il fut arrivé, il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ, versets 27 et 28. On voit en Apollos un serviteur formé par l'Esprit-Saint qui distribue des dons à chacun comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, verset 11.
Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît.
Il est conduit par le Seigneur qui l'envoie où il le trouve bon. C'est avec lui seul qu'il a affaire. En 1 Corinthiens 16, verset 12, on voit que Paul aurait voulu qu'il allât chez les Corinthiens, mais il ne trouvait pas le moment convenable.
Or, pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup prié d'aller auprès de vous avec les frères, mais ce n'a pas été du tout sa volonté d'y aller maintenant, mais il ira quand il trouvera l'occasion favorable.
Il recevait les directions nécessaires du Seigneur, non d'un apôtre. Les serviteurs de Dieu dépendent de lui seul, non des hommes ni des assemblées, mais ils doivent se laisser conduire par le Seigneur pour annoncer l'Évangile et servir les frères et les assemblées. Paul avait sous sa dépendance des serviteurs tels que Timothée et Tite, qu'il envoyait où il le trouvait bon. Cela se pouvait alors parce que Paul était apôtre, doté d'une autorité qui n'existe plus. Mais il n'en usait pas envers d'autres serviteurs. Il chargea aussi Tychique de porter ses épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, et, plus tard, lui enjoignit de se rendre à Éphèse et en Crète.